Une question à présent, comment vit-on dans les quartiers prioritaires, les quartiers populaires défavorisés, censés être mieux pris en compte dans la politique de la ville? Pour le savoir, les centres sociaux et socioculturels de 22 quartiers ont interrogé leurs habitants pendant 2 ans. Et aujourd'hui est publié le résultat, le 5e rapport de la Fédération des centres sociaux et socioculturels avec l'association Questions de Ville. Antoine Geoffin s'est rendu dans un des quartiers concernés à Strasbourg, Haute-Pierre, 13 000 habitants à l'ouest de la ville. Et ceux qui l'ont rencontré se sentent abandonnés.
À 15 minutes du centre-ville de Strasbourg, en tram, les tours de 7 étages côtoient des petites maisons de quartier. Sandrine vit ici depuis 20 ans dans un HLM trop petit pour sa famille. Elle veut partir, c'est trop sale.
J'ai des cafards qui viennent de temps en temps, des punaises de lit, beaucoup de gras, c'est pas nettoyé. Il y a des gens qui jettent des déchets par la fenêtre, hein. Des couches. Hein. La mairie de Strasbourg, ils font pas grand chose. Hein. J'ai pas encore vu la maire de Strasbourg, je viens la rencontrer une fois.
Rosa, 40 ans à Haute-Pierre, ne se sent pas écoutée non plus, surtout quand elle a un problème avec son bailleur social. Et qu'elle en parle avec un élu.
Je lui ai dit une fois, on ne vous voit jamais, mais au moment des élections, vous venez nous serrer les mains. On peut dire qu'est-ce qu'on veut, ça ne bouge pas.
Sheila habite une petite maison depuis 37 ans ici. Elle ne supporte plus les trafics.
On les voit à côté de l'école, ben ils font leur petit business. Ils ne se gênent plus, ils sonnent, ils rentrent dans les cages d'escalier. Les voisins ne peuvent rien dire parce qu'ils ont peur. Je suis très fière de mon quartier, hein, très très fière, mais ça craint.
Le quartier n'est pas tout à fait mauvais, insiste Mohamed, mais sur le trafic de drogue, cet habitant estime que l'État les abandonne.
Je vois un petit peu l'absence de l'État, de l'autorité publique. Quand je vois les attroupements, je ne vois pas la police. Et s'il y a attroupement qui se répète, si dans le même endroit, ça veut dire que c'est un lieu sûr pour eux, pour les trafiquants.
Pour ce père de famille, il n'y a pas assez d'activités sportives, culturelles pour les jeunes. C'est aussi l'avis de Ludovic, la trentaine, ancien boxeur pro, figure de grand frère à Haute-Pierre.
Il n'y a plus rien après 16 ans, c'est-à-dire les jeunes après 16 ans sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a personne qui s'occupe d'eux en fait. Il n'y a pas de boulot, personne qui s'intéresse à eux. Ils n'ont que la police pour venir s'occuper d'eux. Quand je demande des coups de main de gauche à droite, tout le temps la même chose. Pas de réponse. Il y a des tonnes de subventions et compagnie qui tombent, mais le quartier ne bouge pas. Les projets ne bougent pas.
5 ans par exemple que Ludovic attend une aide pour louer un local pour son association de boxe. Ça lui permettrait d'occuper les jeunes et de les aider à trouver un travail.
Et nous sommes en ligne avec le délégué national de la Fédération des centres sociaux de France. Bonjour Denis Tricouard.
Bonjour.
Ces témoignages que l'on vient d'entendre, est-ce qu'ils sont à l'image de tous ceux que vous avez recueillis pendant 2 ans ?
Alors oui, les témoignages sont à l'image de ceux qu'on a recueillis avec 22 centres sociaux, près de 250 habitantes et habitants durant ces 2 dernières années, dans la double dimension, c'est-à-dire que quand on écoute cette parole, on voit qu'on a des habitants qui regrettent un espace public qui est dégradé, des conditions de logement parfois qui sont compliquées, des réalités aussi de trafic et des dimensions comme ça, et avec une vraie volonté de leur part que ces dimensions-là soient résolues pour qu'ils puissent être considérés comme des citoyens à part entière. Et en même temps, on entend chez eux, et votre reportage le met bien en valeur, le fait que ce sont des habitants qui aiment leur quartier, qui sont attachés à ce quartier-là.
Je
et
suis
qui,
très
pour
fière.
Ça, ont envie de pouvoir en être.
Une dame, effectivement, nous disait « Je suis très fière de mon quartier, mais ça craint ».
Oui, mais c'est alors ça craint plus ou moins en fonction des territoires, mais c'est un bon résumé. Et vraiment, il y a cette volonté de dire on a envie de rester dans ces quartiers. Et pour ça, il faut qu'un certain nombre de choses changent. Il faut que la situation dans nos quartiers évolue. Il y a vraiment cette volonté de pouvoir, avec les pouvoirs publics, construire des réponses aux difficultés dans ces quartiers.
Et cette construction, est-ce qu'elle ressort, cette volonté en tout cas, c'est peut-être la seule bonne chose qui sort du confinement ou des confinements qui aussi ont aggravé les choses dans ces quartiers.
Alors c'est vrai que notre démarche, elle a été animée pendant la première partie du confinement. Ça a été compliqué de faire parler, de réunir des habitants, mais ils l'ont voulu d'ailleurs et ça a montré comme il était important pour eux de pouvoir être écoutés, entendus par les pouvoirs publics, y compris dans des situations comme ça. Mais cette période de confinement, si elle a marqué encore plus des inégalités quant aux conditions de logement, quant aux conditions éducatives, d'accès au numérique, elle a aussi montré dans ces quartiers-là, peut-être comme à d'autres endroits en France, plein de solidarités qui se sont développées, de voisinage, des choses qui se sont réorganisées aussi dans la vie des familles, dans la relation entre parents et enfants. Après les moments de sidération, les premières semaines extrêmement compliquées, les habitantes et les habitants disent aussi comme finalement ils ont pu à l'intérieur de leur famille et dans leur environnement, repenser leur rapport au temps, repenser les priorités. Et ça, c'est extrêmement intéressant.
Mais on a l'impression que les habitants finalement ne peuvent compter que sur eux-mêmes.
Alors, Je pense qu'ils n'en sont pas là. C'est-à-dire qu'ils ont conscience que dans les quartiers, et ils agissent hein, avec des acteurs associatifs, dont les centres sociaux, mais pas que, ils savent que les pouvoirs publics sont présents, que l'éducation nationale, les bailleurs sont également présents. Par contre, ce qui est regretté, c'est qu'il y a un écart qu'ils jugent de plus en plus important. Et en fait, leur aspiration, l'aspiration des habitants, c'est vraiment à faire en sorte que ce lien entre ce « il » et ce « nous », habitants, puisse être vraiment renoué, parce qu'ils disent on n'a pas non plus la baguette magique pour changer les choses, mais c'est uniquement ensemble, pouvoir public et nous, habitants, avec les acteurs associatifs, qu'on peut changer les choses. Donc ouvrons des nouvelles façons de travailler ensemble, de discuter ensemble, considérez-nous aussi comme des ressources dans les territoires pour qu'on puisse essayer d'imaginer des réponses pour ces quartiers qu'on aime.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en prend le chemin ?
Ça, c'est un peu l'une des grandes difficultés, c'est-à-dire qu'on entend que cette question de la participation des habitants et la prise en compte des habitants, c'est une priorité dans les discours et les pouvoirs et les politiques publiques depuis longtemps, mais dans les actes, il reste encore beaucoup de chemin à faire, et peut-être que ça change vraiment d'abord par le regard qui est porté sur les habitants, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de les consulter une fois de temps en temps, il faut vraiment les considérer, je le redis, comme des ressources pour pouvoir construire des réponses. C'est les habitants qui vivent dans ces quartiers au quotidien. C'est eux qui ont la meilleure expertise de ces quartiers-là.
Et vous publiez donc ce cinquième rapport. Merci beaucoup, Denis Tricoire, de nous avoir consacré ces quelques minutes, délégué national de la Fédération des centres sociaux de France.